voilà. Est-ce que ça marche? Je ne suis pas très habitué aux moyens modernes. Vous savez, je suis encore à un siècle en retard. Quand je vois tout ce matériel, je suis toujours très, très impressionné. Hein, mais bon, tout d'abord, je vous salue. Et tout à l'heure, Félix venait me chuchoter à l'oreille. Elle disait, tu sais, tout le monde ne connaît pas ton épouse. Hein. Alors, c'est peut-être vrai. On a l'impression que tout le monde nous connaît parce qu'on venait régulièrement vous voir. Mais voilà, je suis Monsieur Falaise, Emmanuel. Alors, à partir de ce jour, vous m'appellerez Emmanuel et vous me tutoierez. On est d'accord? Parce qu'il y en a qui m'ont dit vous tout à l'heure, hein, dans le précédent culte. Mais on se tutoie, enfin, vous me tutoyez. Je trouve que ça fait bien. Et puis, alors, j'ai mon épouse qui n'est peut-être pas connue. Vous savez, les épouses de pasteurs, malheureusement, elles sont mises de côté. On les cache presque. C'est dommage. Hein, parce que heureusement qu'elles sont là. Je vais vous dire, si elles n'étaient pas là, je ne serais plus là non plus. Quand je dis ça, je pèse mes mots. Hein. Je ne serais plus là dans tous les sens. Je vais demander à Fabienne de se lever. Voilà, c'est ma petite femme. C'est ma petite femme. Alors, vous avez compris, nous sommes les parents de David. Voilà, comme ça, ça vous permet de situer les choses. Voilà, et nous avons été présentés, enfin, avec Éric Sellerier, c'était le 27 juin, et je ne peux pas l'oublier parce que c'était notre anniversaire de mariage. Ah, 32 ans, c'est beau, hein? Et je suis toujours amoureux de ma femme. Hein. Hey, vous l'êtes toujours, vous? Ça va? Hein, pour les hommes, là, vous êtes toujours amoureux de vos femmes? J'espère, hein? Vous leur prouvez aussi. Hein. Et puis, les femmes, vous êtes toujours amoureux de vos maris? Bon, alors ça va, ça va. Ça, c'est rassurant, hein? C'est rassurant. Hein. On est un monde tellement bizarre que j'espère que dans l'Église, on n'est pas ça. On n'en est pas arrivé là. Hein. Bon. Voilà, frères et sœurs, je vais arriver au sujet. Donc, c'est pas facile parce que vous savez, pour moi, c'est un exercice nouveau. Trois cultes. Tout à l'heure, on a prêché, il faut reprêcher. C'est pas toujours évident. Je soulignais tout à l'heure et je vais le souligner également, c'est que dans notre moment de louange, nous avons parlé d'un Dieu puissant. Et nous aimons nous réfugier dans cette expression puissant, Dieu puissant. Et nous plongeons en ce mot, parce que Jésus nous révèle que nous sommes forts aussi en lui, hein, n'est-ce pas? La puissance de Dieu est destinée également à son Église, on est d'accord, hein. Et dans nos chants, nous ne manquons pas de nous exprimer, oui, Jésus est puissant, nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs. Et vous savez, en fait, le mot puissant, il est inné en nous. Jésus nous conforte parce qu'il est avec nous, mais il est inné parce que l'homme est créé puissant dès l'origine. Vous le saviez ça? Quand Dieu a créé l'homme à son image, eh bien, il lui a dit qu'il dominerait sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout animal, et son environnement serait, n'est-ce pas, dominé par lui. Et dans l'esprit de l'homme, il y a cette notion de puissance. Et quand il a péché, nous découvrons qu'il a perdu cette prérogative. Cette notion de puissance lui a échappé. Et oui, quand on est séparé de Dieu, la notion de puissance ne peut plus exister non plus. Seulement, l'homme ne l'accepte pas. Et c'est comme ça que dans notre monde, en dehors de Dieu, les êtres qui nous côtoient aiment à être puissants. On cherche la puissance. On entend parler de puissance. Eh bien, ce matin, frères et sœurs, ce que je voudrais, c'est peut-être vous amener à vivre ce qu'est la véritable puissance. Ce qui n'est pas seulement un slogan, mais qui doit être une réalité. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. On va lire le premier verset, alors que j'ai choisi. On va zoomer sur ce verset qui est dans Genèse 4, 26. Pour ma part, je vais lire le contexte qui correspond au verset précédent. Il est dit qu'Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Et nous arrivons au verset qui nous importe. Seth aussi eu un fils qu'il appela Enoch. Alors ne pas confondre avec Enoch. Dans sa lignée, c'est ce Enoch qui marcha 300 ans avec l'Éternel. Ici, c'est Enoch. D'ailleurs, il y a même un autre Enoch, mais dans la lignée de Caïn. Donc, à ne pas confondre. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Ça, c'est important de le souligner. Il appela son fils Enoch, et c'est à cette époque-là que l'on a commencé à prier l'Éternel. Frères et sœurs, Enoch signifie homme. Adam signifie également homme. Homme, c'est-à-dire tiré de la terre, poussière, au niveau universel, c'est l'homme. Enoch vient du verbe anas. Et ce verbe signifie faiblesse, être faible, mortel, maladif, fragile. Et c'est là que nous pouvons nous poser la question, mais qu'est-ce qui a fait que Seth a appelé son fils Enoch ? Est-ce parce que à la naissance, il y a eu quelques frayeurs et l'enfant était fragile, peut-être sur le point de mourir, on ne sait pas ? Ou peut-être est-ce la réflexion de Seth sur la condition de l'homme sur la terre ? N'était-il pas lui le remplaçant d'Abel que Caïn avait tué ? Et là, il réalise pleinement combien l'homme est dans une faiblesse extrême, vulnérable, vulnérable. La lignée de Caïn, eh bien, nous voyons qu'elle va s'enfoncer toujours plus loin dans le mal. Nous avons donc ces deux enfants, Caïn et Seth. Et c'est là que nous voyons deux voies qui vont se distinguer. La voie de Caïn, qui, comme je le disais, s'enfonce toujours plus profondément dans le mal, dans la violence, sans se soucier du regard que Dieu porte sur ses actions. Et Seth, heureusement pour nous, pour l'humanité, qui va inaugurer une autre voie, c'est la voie du salut, que nous connaîtrons à travers Noé, sa descendance, Abraham, les prophètes, jusqu'à Jésus, alléluia, qui justement va nous parler de ce grand salut, alléluia. Alors, frères et sœurs, cette destinée heureuse est la conséquence d'une prise de conscience. Et je vais m'approprier les termes de Paul et pour former le titre de mon message, quand ils disent « car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort », eh bien, je voudrais prendre ces propos et dire « quand je prends conscience que je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Enoch prend conscience, et il prend conscience, vous savez, 230 années après la création de l'homme. Il y a quelques années pour qu'une prise de conscience soit faite. Hein. 230 années a-t-il fallu attendre pour que tout à coup on réalise qu'il faut s'accrocher à Dieu. Il faut se rapprocher de Dieu. Et nous allons voir ça dans le développement que je vous propose. Les deux voies qui se distinguent dès l'origine, ce sont ces deux voies dont Jésus parlait d'ailleurs. Lorsqu'il dit « entrez par la porte étroite ». Vous vous rappelez de ce passage, hein ? En effet, large est la porte et facile est la route qui mène à la perdition. Elle est facile. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont nombreux, ceux qui les trouvent. Alors cette porte large est inaugurée par Caïn, n'est-ce pas ? Et la Bible ne s'étend pas tellement sur la généalogie de Caïn, mais le peu d'informations que nous en avons est tout à fait significatif. Il nous montre au fond sur quoi le monde se repose aujourd'hui, sur quoi il tire sa force. Vous savez, quand j'étais enfant, j'en voulais un peu au Seigneur. Je n'avais pas compris Dieu. Parce que quand j'étais à l'école du dimanche et que je lisais l'histoire de Caïn et Abel, c'est pas évident à lire pour un enfant. Mais bon, la leçon m'avait paru un peu brutale. Je vois deux hommes qui offrent un sacrifice à l'Éternel. Et puis, j'en vois un qui offre les prémices de, du labeur de la terre, des fruits de la terre, et l'autre, cet agneau. Et Dieu ne prend pas compte de l'autel, du sacrifice de Caïn. Je dis, Seigneur, t'aimes pas les légumes? Je dis, comment ça se fait que tu lui en veuilles autant? Et puis, vous avez lu la Bible, vous, et je l'ai lu aussi après, et j'ai compris. Il est dit que c'est par la foi, et c'est Hébreu qui nous le dit, hein, le chapitre de la foi, 11, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Par la foi. Et vous savez ce que c'est que la foi ? Eh bien, la foi, c'est un acte d'humilité. C'est accepter de ne pas pouvoir par nous-mêmes faire les choses. Et c'est compter sur Dieu seul. C'est pas ça la foi ? C'est pas ça la foi ? Waouh ! Parce que ça, c'est important de l'avoir compris. Et vous avez compris qu'au fond, dès les temps anciens, la Bible nous place sur le terrain de la foi. Abraham, bien sûr, était un homme de foi et on en parle beaucoup comme étant celui qui a été justifié par sa foi. Mais n'oublions pas que dans ce chapitre de Hébreux 11, il est question de ce personnage, n'est-ce pas, qui est Abel, qui lui a fait son acte par la foi. Il a compté sur le Seigneur et il a cherché à être approuvé du Seigneur en cherchant sa volonté. Alors, à contrario, donc ce qui signifie qu'Abel a fait une offrande qui était comme un sacrifice personnel, un acte qui lui avait coûté peut-être, et que Dieu ne pouvait pas refuser, absolument pas. Il était normal pour lui certainement que Dieu l'approuve. Il avait fait un effort. Et vous savez que quelquefois, hein, dans l'esprit, on pense que nos efforts devraient être approuvés de Dieu systématiquement. Ah, nous avons fait ça pour Dieu, alors on aurait dû obtenir ça. Et frères et sœurs, ce n'est pas ça. Nos offrandes sont pour Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'on aime sa volonté, oui ou non. Mais nous ne voulons pas d'un Dieu qui soit notre serviteur. Est-ce que vous comprenez ? Caïn voulait que Dieu soit son serviteur. Il disait, Dieu, tu dois m'approuver. Dieu, j'ai des projets, tu dois les bénir. Dieu, j'ai des ambitions, tu dois être avec moi. Voilà, je te dresse un autel. Et au fond, dans les autels païens, c'est cet esprit-là qui les animait. On offrait des enfants en holocauste pour être approuvés des dieux. C'était des sacrifices terribles parce qu'on espérait que les dieux soient cléments. Mais c'est passé. Mais devant Dieu, attention, il n'est pas question que nous, on fasse des sacrifices. Le seul sacrifice que Dieu nous demande, c'est d'avoir foi en lui. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Qui n'est pas d'accord ? Mais c'est ça. C'est par la foi qu'Abel a été reçu de Dieu. Alors, si le premier péché qui est mentionné dans la Bible a été, n'est-ce pas, introduit par un manque de considération de la parole de Dieu, rappelez-vous, c'est au moment où il est dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Le second péché qui est mentionné dans la Bible et qui nous concerne tous, c'est celui d'un esprit frustré. Dieu ne m'a pas béni. Alors, pourquoi je le servirai ? Dieu n'a pas accompli ma volonté. Il ne m'a pas exaucé. Je suis découragé. Je vais changer d'église. Dieu ne m'a pas béni. Alors, à quoi ça sert de le prier ? De faire des prières plutôt, parce que prier, ce n'est pas pareil. On peut faire des prières, mais on ne prie pas. Hein, il y en a, ils font leurs prières. Mais ce n'est pas ça, prier. On pourra faire de multiples prières. D'ailleurs, Jésus disait, hein, ce n'est pas par l'abondance des paroles que vous serez exaucés, mais c'est dans une réalité d'esprit. Alléluia. Voilà. Alors, ce que je vois chez Caïn, cet esprit frustré, c'est qu'il va fuir loin de l'Éternel. Voilà, il n'est pas content. Il fuit loin de l'Éternel. Et il va partir dans le pays de Nod. Et vous savez ce que ça veut dire, le pays de Nod ? C'est le pays de l'errance. Voilà ce que ça signifie. Le pays de l'errance. Alors, on pourrait se poser la question et se dire, mais pauvre Caïn, dans quel état il est aujourd'hui ? Il doit être bien malheureux, hein, en haillons, dans la misère. Il erre. Où est-il ? Mais bien-aimé, Caïn, il va très bien. Caïn, il se porte comme un charme. Il a abandonné Dieu, mais ça va bien pour lui. Et croyez-moi, mes amis, mes frères et sœurs, c'est que quand vous abandonnez Dieu, ça va très bien. Vous n'avez plus de problème. Vous êtes approuvé des autres à l'extérieur. Et comme par hasard, eh bien, vous faites ce que vous voulez, ça marche très bien. Regardez Caïn. Je ne vous demande pas de le lire, mais je vais vous mentionner ce qui s'est produit. Caïn, quand il est parti, son errance l'a conduit à créer une ville. Il a créé une ville qu'il a nommée Enoch. Son premier fils, voyez-vous, Enoch, attention à ne pas confondre avec l'autre, hein, qui marchait à 300 ans. Celui-là, ce n'est pas du tout dans la même lignée. Hein. Mais voilà qu'il va créer une ville, Enoch. Et je disais, les hommes, dès le départ, tous les ingrédients sont là. Les hommes vont s'appuyer sur ces mêmes principes. Créer une ville, moi, ça me parle de puissance économique. Aujourd'hui, on est dans un monde, on parle de puissance économique. Nous sommes dans un grand pays, je disais tout à l'heure, mais un pays qui a des fuites partout. Quand vous entendez le président, la France est un grand pays. Mais tellement endetté, on ne sait pas par où on va régler le problème, hein. Mais c'est un grand pays. On aime parler de grand pays, de puissance, puissance économique extraordinaire. Et on s'assoit sur ça et on met sa force et sa confiance en ça. Il bâtit une ville. Jubal, est l'ancêtre de ceux qui jouent de la flûte. Alors, comprenez-moi bien. Moi, je dis béni soit Dieu parce que je ne suis pas contre la musique. Alors, il ne faut pas confondre. Je dis, béni soit Dieu pour nos frères et sœurs qui chantent si bien. Et je disais tout à l'heure, il était temps qu'on y pense. Hein, parce que dans nos églises, on disait, si tu gratouilles un peu, le principal, c'est de gratouiller. Et moi aussi, je l'ai dit, parce que, on était élevés comme ça. Mais quand, sincèrement, quand on voit la qualité musicale qu'on a aujourd'hui, moi, je dis merci Seigneur. Hein, et Dieu méritait quand même plus que d'un gratouillage sur une guitare. Hein. Oui. Mais par contre, frères et sœurs, n'oublions pas que la musique, pour le monde, c'est le moyen de séduire. C'est le moyen de faire passer des messages contre Dieu et qui veulent nous éloigner. Regardez, si on compte, moi je ne connais pas l'anglais. Ça m'évite d'avoir les oreilles qui soient ennuyées. Mais je suis conscient que dans toutes les chansons, on parle d'adultère, on parle de cette approche de la sexualité, c'est ça qui est mis en avant la plupart du temps. Hein. Et franchement, c'est vrai que peut-être devrions-nous penser et réfléchir et dire, est-ce que c'est là mon sujet ? Est-ce que c'est là ce que je dois écouter le plus ? Il y en a qui nous parlent de drogue, drogue-toi, ou il y en a même, il paraît, qui parlaient suicide-toi. C'est une catastrophe. Mais voyez-vous, passez avec la musique. Passer avec la musique. Comment on charme le serpent ? Avec la musique. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas charmés par la musique ? Et voyez-vous, je disais ça tout à l'heure. J'ai arrêté de dire je disais ça tout à l'heure parce que voyez-vous, c'est mon problème du deuxième culte là. Hein. Faut que je m'y fasse, faut que je parle comme si c'était la première fois. Hein. Mais au fond, le pape est parti au Brésil. Et il y avait un reportage justement sur ces chrétiens qui avaient abandonné l'église catholique et qui avaient intégré les églises évangéliques. Et là, il y a une interview auprès d'une jeune dame dans l'église évangélique qui disent « Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu dans l'église évangélique ?»« Ah, vous savez, les chants, c'est comme une caresse que Dieu... » Alors, mais même plus, il a dit « Plus que la parole... » Les chants sont comme une caresse dans mes cheveux. Alors là, je me suis dit, il y a un sérieux problème. Alors bon, il chante bien, mais vous, les chants qu'il chante, est-ce que c'est une caresse dans vos cheveux ? Vous vous levez parce que vous chantez, vous vous asseyez parce que c'est le moment de prier ? Vous avez l'élan pour dire Alléluia dans le chant, mais est-ce que vous avez le même élan pour prier le Seigneur ? Frères et sœurs, attention. Moi, je dis, il faut qu'on prie. Je dis, oui, développer la musique pour la gloire de Dieu. Hein, il faut que ça soit encore mieux, même. C'est déjà pas mal. Alors là, je suis en train de m'en avancer sur un terrain un peu mouvement. Ils vont me dire tout à l'heure, quoi, on chantait pas assez bien ? Mais si, mais si. Mais je dis, à la limite, si on peut faire mieux, allez-y, faites-le. Mais ils ont drôle de responsabilité, ceux qui chantent. Car ils ont la responsabilité de nous amener dans la présence de Dieu. Car de leur chant, vous allez écouter ou pas la parole de Dieu. Parce qu'après certains chants que j'ai entendus quelquefois dans certains milieux, mais quand le prédicateur passait derrière, plus personne n'avait envie d'entendre l'évangile. Ah, parce que oh, c'était tellement bien, c'était merveilleux, on chantait, oh, la parole de Dieu. Voyez-vous où on en est ? À un moment donné, on est en danger. Et ça, c'est introduit par Caïn. Et puis les mecs qui tuent un homme et un jeune enfant et qui va s'en vanter. Puissance militaire, la force de son bras. Et aujourd'hui, c'est ce que le monde nous dit. Puissance militaire, la musique, et puis puissance économique et toutes ces choses. C'est ce que le monde veut nous transmettre. Dans la lignée de Seth. Alors dans la lignée de Seth, on ne nous donne pas toutes ces indications sur les capacités de l'homme, hein, de l'humain, dans ces domaines que je viens de citer. Mais nous donne une indication sur sa capacité à transmettre le salut. Nous découvrons que de sa descendance va porter le message de Dieu. Alors attention, et c'est ce que je veux faire. Hein. Je vais faire une parenthèse. Je ne veux pas dire qu'un chrétien est un culte. Bon, je reconnais à une époque, même mon père me dit, ouais, allez à l'école biblique, du moment que le Saint-Esprit est avec toi, c'est ce qui compte. Bon, vous savez, c'était une époque. Mais, frères et sœurs, je n'ai pas des grands diplômes. Je n'ai pas de... Oui, c'est ce qu'il y a de dire. Et je n'ai pas été à l'école biblique. Mais mes frères et sœurs, si vous me demandez aujourd'hui ce que je pense concernant des jeunes qui veulent servir le Seigneur, je leur dirais, allez à l'école biblique. Et je dis à tous les jeunes qui sont ici, travaillez, ayez des diplômes. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est orgueilleux. Moi, j'ai vu des gens qui n'ont rien, mais qui sont orgueilleux quand même. Oui, ce n'est pas parce que tu es riche que tu es quelqu'un de bizarre. J'en ai vu qui ne sont pas riches, ils sont bizarres. Et si tu as un esprit créatif, mais au contraire, fais-le. Moi, je suis content si je m'assois à côté d'un milliardaire. Et c'est pas pour ça que je vais aller dire, ah, dis-donc, tu es milliardaire, tu pourrais me donner des sous. Mais oui, mais voyez-vous, est-ce qu'on réfléchit à toutes ces choses-là ? Et parce que tout à coup, on catalogue les gens comme ça. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas dit qu'il était contre les riches. Il a dit aux riches, attention, que votre richesse serve à la gloire de Dieu. Votre intelligence, qu'elle serve à la gloire de Dieu. Vous êtes instruits pour la gloire de Dieu. Voilà, mettez ces choses entre les mains de Dieu. Vous êtes capables de chanter. Alors, béni soit Dieu, chantez, alléluia. Mais pour la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Amen. Vous n'êtes pas d'accord ? Bon. Frères et sœurs, ce que je découvre dans ce que j'ai lu, c'est la perte de la communion avec l'Éternel. Et vous savez, la perte de la communion avec l'Éternel crée l'illusion. Alors, je m'explique. Nous sommes 235 années, je le disais tout à l'heure, après la création de l'homme. Et sans s'en rendre compte, graduellement, l'être humain a perdu contact avec Dieu. Ça ne s'est pas fait comme ça. Mais ces erreurs l'éloignent petit à petit de Dieu. Alors je pense qu'autour de la table d'Adam et Ève, le midi, avec les enfants, ouais, quand on se souvenait de la gloire de Dieu dans le jardin, vous vous rendez compte des discussions qu'il y a dû y avoir autour de la table ? La nostalgie. Et écoutez, nous, on parle de la nostalgie, le réveil. Mais eux, ils avaient connu le jardin d'Éden. Dieu parlait directement face à face avec eux, vous imaginez, vous ? Et sans voile, il parlait, il se faisait voir, il le voyait. Et il y en a plus d'un ici qui aurait envie de voir Dieu. Mais vous le verrez, mais pas maintenant. Quand vous serez au ciel, d'accord. Mais vous vous rendez compte ? Moi, j'imagine le drame qui devait se dérouler autour de la table. Oh, si j'avais su. Oh, les si j'avais su, il devait y en avoir. Mais voilà. Donc, 235 années, on avait perdu tout contact avec Dieu. Tout contact. On l'a dit tout à l'heure, dans la frustration de Caïn, qui est désapprouvé. C'est la dernière fois que Dieu parle à un impie. Réalisez-le directement. C'est la dernière fois que directement Dieu parle à un impie. Et il a dit, tu seras vengé cette fois, rappelez-vous. Mais c'était la dernière fois que Dieu directement parlait à un impie. C'était fini après. Dieu ne parlerait plus aux impies de cette façon-là. Et puis, la perte de la communion nous invite à toute autre priorité que celle de chercher Dieu. Quand on n'est plus en communion avec Dieu, s'installent d'autres priorités. Regarde la télé. Alors, je n'ai pas arrivé comme dans le temps, on va dire, oui, il faut plus faire ci, il faut faire ça. Mais frères et sœurs, on est bien obligé de souligner quand même les travers de l'humain. Il faut bien réaliser que tellement de choses nous font perdre du temps parce que tout à coup, on a perdu la communion avec Dieu. Et pour la retrouver, vous avez remarqué ? Je suis bien placé pour vous le dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de rouvrir sa Bible au bout de quelques années, de revenir à genoux et prier le Seigneur. Ce n'est pas évident du tout. Et ça demande un effort surhumain. Avez-vous remarqué que c'est difficile de prier ? S'installer dans son canapé, pof, j'allume la télé. Mais pour aller prier, quel effort sur moi-même je dois faire ? Oh, bon, je dis, Seigneur, voilà, alléluia, amen. Voilà ma communion avec Dieu. Bon, ce n'est pas le cas, vous l'avez compris. Mais n'empêche, la perte de la communion avec Dieu nous fausse notre compréhension sur les promesses de Dieu. Par exemple, les mecs, dans la lignée de Caïn, regardez, il a tué, comme nous l'avons dit, un homme et un jeune homme. Et il va s'approprier une promesse qui était destinée à Caïn au départ. Dieu avait dit à Caïn, tu seras vengé 7 fois. Mais il n'a jamais dit à les mecs qu'il serait vengé 77 fois. Mais comme il a entendu que Caïn serait vengé 7 fois, alors il s'est dit, eh ben, si Dieu veut venger mon père 7 fois, eh bien oui, eh bien, je serai vengé 77 fois. Quelle prétention! Et c'est comme ça que des païens pensent que Dieu ne peut que les recevoir. Moi, vous savez, je suis dans les pompes funèbres. C'est un beau métier. Vous allez me dire, oh, c'est toi qui le dis. Mais bon, parce que je vois plein de gens. Hein. Mais surtout, ce qui m'a étonné, voyez-vous, c'est que, en relation avec les mecs, c'est que lorsque je fais les inhumations, depuis jusqu'à ce jour, d'ailleurs, ça fait 8 ans que je travaille dans le milieu, tous ceux que j'enterre sont des bonnes personnes. Quand ils passent à l'église, vous entendez toujours dire, il était bon avec tout le monde. Il a toujours secouru le pauvre. Il était là disponible pour ses concitoyens. Il était un homme brave dans sa maison, fidèle à sa femme. On ne sait jamais ça, il ne sait rien du tout, le prêtre. Et puis, avec ses enfants, c'était merveilleux. Ah, oh, tout est merveilleux. Alors après, mes frères et sœurs, maintenant, je peux vous l'annoncer, je sais, j'ai la clé qui, pour vous dire que je sais pourquoi le monde va si mal. Car en réalité, ce ne sont que les bonnes personnes qui meurent. Les méchants, ils ne meurent pas. Eh oui, il était bon, il faisait du bien, mais tous. Alors je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Le monde va mal, oui. Ils ne meurent donc pas, ceux-là, les autres. Pourquoi ? Parce qu'on va à l'église espérant avoir une consolation au fond de son cœur, disant ben, peut-être que s'il y a un Dieu, il l'acceptera. C'est une illusion. Quand on a perdu la communion avec Dieu, on s'illusionne. On parle de choses sans les connaître. Alors tout le monde ira au paradis. C'était une chanson, n'est-ce pas? Et pourtant, non, 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 non. Alors vous allez me dire, on a parlé beaucoup de Caïn. En quoi cela concerne-t-il l'Église? Parce que vous allez me dire, mais moi, frère, bon, Caïn, il y a Caïn et tout ça. Eh bien, l'illusion de puissance, elle n'est pas que chez les païens. Elle existe aussi chez les chrétiens. Paul va s'adresser aux Corinthiens. Et voilà ce qu'il leur dit. Corinthiens 4, 8, il dit « Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. » Vous comprenez ce que Paul dit là? Il dit « Vous avez commencé à régner sans nous. J'aimerais bien qu'il en soit ainsi, afin que nous, on puisse aussi être rois avec vous. » Mais lui, il continue et il réalise, il dit « Nous, pour nous, nous sommes encore dans les larmes, dans les combats. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Église a un problème. Vous savez, j'ai vu beaucoup d'Églises chanter, de mon temps c'était comme ça, ceux qui ont connu. Jésus est levé, Satan écrasé, Jésus est levé, Satan écrasé, on est puissant, alléluia, alléluia. Alors, vous en aviez 100% qui chantaient le cantique. Et puis le lundi matin, c'était la déconfiture. On chantait Satan écrasé la veille et on vivait comme un esclave dès le lundi matin. Alors ce n'est pas seulement de pouvoir dire alléluia, oui Dieu est fort, je suis puissant, alléluia, on est joyeux. Ouh, c'est beau de le dire, c'est autre chose de l'être. Et ce que Jésus veut ce matin pour nous, c'est que nous soyons puissants. Il veut que nous soyons puissants. Ça fait le deuxième culte ce soir, je suis mort. Il veut que nous soyons puissants. Alléluia. Il le veut, le Seigneur, que nous soyons puissants. Mes frères et sœurs, quel est le secret de la puissance? Eh bien, on l'a dit. On l'a dit, le premier verset nous le dit. Tout d'un coup, Seth s'est rendu compte de l'état où il était. Et c'est là que c'est important, tout à coup, de faire le point. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que ma vie spirituelle? Je chante, mais au fond de moi, est-ce que je vis vraiment la vie de Dieu? Est-ce que je suis en communion avec lui? Alors, mon frère, fais comme lui, fais comme Seth. Mets-toi à genoux et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Faites toutes sortes de prières. Pas seulement alléluia. Des supplications aussi, toutes sortes de prières. Alors ça, c'est pas ce que j'entends, on n'entend pas souvent les supplications, les sortes de prières, frères et sœurs. Alors, je vais vous expliquer maintenant, je me dépêche, je vais être très rapide maintenant. Il y a deux exemples dans la Bible qui sont significatifs, qui pour moi parlent de l'Église. Abraham et Lot, deux membres de l'Église. Alors, vous connaissez bien Abraham, il n'y a pas de problème, même Lot. Mais, voyez-vous, ils sont tous les deux nommés justes. Eh oui, c'est par la foi que Abraham fut justifié. Il fut rendu juste aux yeux de Dieu par sa foi. D'accord? D'accord? Bon. Et puis, mais vous savez que Lot aussi. Lot, il est dit que Lot, ce juste, était consterné par la conduite. Mais la Bible dit, dans 2 Pierre, Lot, ce juste, juste. Lot, c'était le petit-neveu. Et il suivait Abraham à l'église. Il entendait tonton Abraham prier. Il avait toutes les informations. Il était à l'école du dimanche, peut-être. Enfin, à l'école du dimanche, non, attendez. Le culte des enfants, c'est ça? Oh là là, j'ai intérêt à me convertir, moi aussi. Hein, et donc, Il allait au culte des enfants. Il a entendu parler de la grandeur de Dieu, que Dieu était bon, que Dieu était vivant, qu'il voulait bénir son peuple. Et effectivement, Abraham a été béni et Lot aussi. Non ? Tous deux, rappelez-vous, ont eu des troupeaux extraordinaires à un tel point qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Et c'est là qu'Abraham, un jour, lui dit, « Eh bien, écoute, nous ne pouvons plus être ensemble, nous sommes trop riches. Dieu nous a trop bénis. » C'est extraordinaire. Mais c'est presque ça ici, hein, vous avez remarqué. Trois cultes, il n'en faudrait qu'un, il faut chercher plus grand. Mais voilà, alors il lui dit, « Choisis. » Lot, il faisait sa prière lui aussi. « Seigneur, bénis-moi. Alléluia, tu es vivant, tu me bénis. » Et quand Abraham lui propose de choisir, oh, il voit la plaine du Jourdain. Il dit, « Seigneur, tu as exaucé ma prière. » Voilà, tonton s'est trompé. Dieu a voulu qu'il me laisse choisir. Eh bien, quand je vois tout ça, ça sera bien pour mes troupeaux. Je vais donc aller vers la verdure et toute cette eau magnifique. Et puis, il y a des villes là qui sont bien. On va pouvoir faire la fête, parce qu'il était encore très chrétien, lui, à ce moment-là. Hein. Et il s'est dit, « Oh, c'est bien. » Et qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible ? Il est dit que Lot a vu cet endroit comme le jardin, ça ressemblait au jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors déjà, il y a un problème. C'est soit le jardin de l'Éternel ou le pays d'Égypte. Mais les symboles ne peuvent pas se mélanger. Parce que l'Égypte nous rappelle le monde. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, ce qu'il a vu, c'est qu'il y avait une abondance. Et c'est tout. Et quand il a vu qu'il y avait l'abondance, il a dit, ça c'est la bénédiction. Et vous savez pourquoi il a vu ça comme ça ? Bien parce qu'il y a quelque chose de différent entre Abraham et Lot. Abraham est sensible à la voix de Dieu. Et qu'est-ce que je vois, moi ? C'est que c'est un homme de prière. Il leva son camp pour se rendre dans la région montagneuse de l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il y construisit un autel à l'Éternel et le pria. Genèse 12:8. Et puis, Genèse 13, 3-4, regardez. D'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Bethel, au lieu où il avait auparavant établi son campement, entre Bethel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé. Et il y pria l'Éternel. Prière, ça fait partie de la vie d'Abraham. Et comme il est en prière, comme c'est un homme de prière, qui s'attend à Dieu, qu'il a la foi, Dieu le conduit. Il ne sait pas où il va, mais il sait que Dieu le conduit. Il ne sait pas où il va. Mais vous savez, quand il a demandé à choisir à son neveu Lot, Lot avait trouvé la verdure, mais lui, quand il se retourne, vous parlez d'une bénédiction, vous. Ce n'est pas ce qu'on appellerait une bénédiction. Il a vu quoi comme pays ? C'était plutôt sec. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction dont on parle. Nous, on voudrait que ça... La bénédiction, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça. Être dans un désert, Mais c'est quoi ce truc-là ? Mais Dieu, tu m'as envoyé où ? C'est pas vrai, c'est pas un peu comme ça qu'on voit les choses. Seigneur, tout se passe bien, j'ai été promu ceci, j'ai fait cela, tout se passe bien. Oh Seigneur, ouais, je sais que tu es avec moi. Amen. Attends, il faut que je m'occupe de mes affaires. Et ça, c'est Lot. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Lot, ce juste, entre guillemets, bon, la Bible en parle comme ça, tant mieux, mais il tourmentait son âme au milieu d'une génération perverse. Mais ça ne l'a pas empêché qu'il y restait. Vous n'avez pas remarqué ? Il tourmentait son âme, mais il est resté quand même. Il n'a pas fui de lui-même. Et voyez-vous, le jour où le jugement va s'abattre, il y a un moment où le jugement de Dieu va s'abattre sur Sodome et Gomorre, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Lot. Amen. Alors, je l'ai fait tout à l'heure aux frères et sœurs. Alors, je vous le fais aussi à vous. C'est pas vrai, c'est pas Lot. Hein, j'ai voulu le faire, mais je sais que c'était obligé. Moi-même, je serais tombé dans le piège. Hein, vous inquiétez pas si je ne l'avais pas su. Non, il n'oublia pas Abraham. Et il fit échapper Lot. Échapper Lot. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Quand l'Éternel jugea Sodome et Gomorre, il n'oublia pas Abraham. Et il fit échapper Lot. Attendez, il n'a pas entendu la prière de Lot. Il a entendu la prière d'Abraham. C'est terrible d'être dépendant d'Abraham. Il y en a quelquefois qui prennent la bénédiction de l'Église pour la leur. Il y en a quelquefois qui disent « Ah oui, on est béni à Créteil. Tant mieux, alléluia, moi je dis c'est bien. » Puis dans sa vie propre, il suit. Il n'est pas autonome. Il n'est pas autonome, il suit. « Ah oui, on est béni, hein, Seigneur. » Puis quand il est un peu plus loin, il n'est plus béni. Frères et sœurs, c'est dans votre communion personnelle avec le Seigneur que Dieu peut vous édifier, il peut vous faire grandir, il peut vous rassurer, il a des projets pour vous. Amen. Eh bien voilà, un homme dépendant, un chrétien dépendant d'un autre. Ça veut dire que si Abraham était tombé, il tombait avec. Mais de toute façon, même sans Abraham, il est tombé quand même. Et regardez sa famille dans quel état elle est après. Vous rendez compte? Sa femme, ses filles, les gens qui paraissaient plaisanter aux yeux de ses gendres. C'était pas sérieux son truc. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette famille-là. Il n'était pas sérieux apparemment. Même sa vie chrétienne, c'était pas du sérieux. Les gens disaient, tu rigoles comme d'habitude. C'est terrible, moi je dis. C'est terrible. Je vais finir. Je finis. Frères et sœurs, la dernière chose que je veux souligner, c'est qu'il n'y a pas que la génération d'un Caïn qui est morte le jour de Noé. Vous savez que la lignée de Seth finit par Noé. Qui a été sauvé? Noé et sa famille. Non? Noé, sa famille. Les autres. Vous les trouvez, les autres? Alors vous allez dire, oui, mais Caïn, oui, c'était le péché, il n'y avait pas de problème, c'était un homme infâme, là, sa génération, enfin, sa succession, c'était pareil. Écoutez, mes frères et sœurs, je vais vous lire quelque chose. Quand Seth fut âgé de 105 ans, il eut pour fils Enoch. On vient de le dire, pas de problème. Après cela, il vécut 807 ans, et je vais vous souligner ça, c'est très important. Il eut d'autres enfants. Il eut d'autres enfants. Ah ah, ça m'interpelle. Regardez Enoch qui vécut avec Dieu 300 ans, hein, qui ne fut plus. C'est un beau témoignage, vous croyez, hein? Franchement, vous voulez des miracles? Eh bien, il y a eu des miracles à ce moment-là. Hein? Enoch, il marche avec Dieu et Dieu, il va le prendre avec lui. Comme ça. Et ils le savent. Ses enfants le savent. Enoch, âgé de 65 ans, eut pour fils Mathusalem. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il eut d'autres enfants. Tous ces enfants-là ont vu et ont reçu le même message. Ils ont reçu le même témoignage. Et frères et sœurs, quand on arrive au jour de Noé, mais je me dis, mais où sont les autres enfants? C'est catastrophique. C'est catastrophique. Il n'y a que Noé qui s'en sort avec sa famille. Mais il y avait de sa famille, de ces générations qui ont suivi, il y en avait des quantités. Mais ils sont où? Ils ont rejoint la voie large et spacieuse qu'avait inaugurée Caïn. Vous ne trouvez pas ça dramatique? Des gens qui ont été au bénéfice dans l'Église, qui ont vu peut-être des miracles, qui ont reçu le message de l'Évangile, qui ont vu des beaux témoignages, qui étaient prêts à se tourner vers Dieu et parce que peut-être une frustration, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Mais on ne les voit plus. Ils sont destinés à quoi? Ils sont destinés, excusez-moi, je vais vous le dire. Et on n'aime pas dire des choses comme ça, mais je vais vous le dire, avec moi ça sera comme ça, vous savez. Ils vont vivre le jugement. Que l'on soit sensible ou pas, la réalité, elle est là. Qu'on veuille faire, essayer d'arranger les angles, c'est pas possible. C'est pas possible d'arranger les angles, c'est un constat. Il n'y a que Noé qui s'en sort. Alors moi, ce matin, jeune fille, je ne sais pas ce que tu as prévu. Je ne sais pas qu'est-ce que sont tes projets. Mais tu as la chance, tu as le bonheur d'être dans l'Église. Tu as entendu des témoignages, tu sais que Jésus t'aime. Mais tu vis peut-être comme les autres enfants. Ça va à papa, ça va à la maison, Seigneur est là, il prie, on est bien quand même. Bon, c'est pas mal, mais j'ai les copains dehors, j'ai autre chose, j'ai beaucoup plus d'intérêt à voir les choses à l'extérieur. Et bien, sache ceci, c'est que de toute façon, tu es sur la voie de la perdition. Et tu es en grand danger. En grand danger. C'est vrai, comme nous le disions tout à l'heure, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui y trouvent. La version seconde dit « difficile le chemin ». Ah oui, il est difficile, il va à l'encontre quelquefois de notre volonté propre, humaine. Mais c'est la vie qui est au bout. Frères et sœurs, on va prier. Puis je vais laisser ces gens... Hein. Faut me reprendre parce que j'essaie de me retenir les prénoms. C'est un problème pour moi. Alors, on va laisser Jean, hein, c'est ça. Oh, merci Seigneur. Il va nous conduire dans le chant, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que chacun, nous prions franchement. Nous pourrions même prier pendant le chant, là, les uns avec les autres, dire, Seigneur, bénis celui qui est à côté de moi. Bénis mes enfants. Tiens, tu as tes enfants à côté de toi. Eh bien, mets ta main sur eux et prie, Seigneur, je veux les bénir en ton nom. Je veux qu'ils soient sauvés. Je veux vaincre l'ennemi. Oui, la puissance. Vous avez reçu une puissance. Grâce au Seigneur Jésus, vous pouvez vaincre l'ennemi. Alléluia. Alors, n'hésitons pas ce matin à bénir et à prier de tout notre cœur le Seigneur. Amen.
Merci parce que tu nous donnes encore de réaliser combien tu es grand. Tu nous donnes de réaliser que, en fait, la véritable puissance, c'est ton amour, Jésus. Encore merci parce que tu veux que nous puissions avoir une vie d'authenticité devant toi et avoir une véritable communion avec toi tous les jours. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je veux et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma foi, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es. Tu es.